Bonjour Marc.
Salut Chloé.
Ça fera partie d'une de mes dernières questions, Marc. Toi, tu es un amoureux des mots, si j'ai bien compris. Tu as même créé un podcast en l'honneur des mots, Nomen. Je me disais qu'une des possibilités pour changer de regard sur ce vivant, ce serait de changer de vocabulaire sur ce vivant. Je te donne des exemples. Par exemple, dans ton interview par Pierre Chevel de Soif de Sens, tu dis qu'il faut considérer ce qui vit comme des colocataires.
Excuse-moi, ne perds pas ton fil, mais je dis qu'on peut concevoir ce qui vit autour de nous comme des colocataires. Je dis pas, je me méfie de
Tu fais bien, oui.
Chacun
oui.
fait ce qu'il peut, merci, slash ouais. ce qu'il veut.
Mais... Oui, t'as raison. Non, mais mettons de la nuance, en effet. Merci. Quand on parle d'entretien des espaces verts, ça sous-entend de faire bien propre derrière les oreilles. Si on parle de soins des espaces verts, il y a déjà plus de douceur. Je me disais que maintenant, plutôt que parler de jardin qui suppose un entretien, on pourrait dire qu'on achète une maison et notre réserve naturelle. Ça donne plus de place à la protection. Et enfin, un autre exemple que j'ai vu cette semaine dans mon numéro de Salamandre. Ils ont toujours un mini-guide et ce mois-ci, ils parlaient des plantes adventices pour parler des plantes qu'on a longtemps considérées comme des mauvaises herbes. Mauvaises herbes, on arrache tout de suite. Plantes adventices, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire avec, on se renseigne. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que pour changer ce monde, il faut changer de vocabulaire ?
Tu te souviens, tout à l'heure, on parlait d'humain et d'humanité qui a la même racine indo-européenne qu'humus. Je trouve ça absolument formidable. Moi, ce que je dis beaucoup dans mes conférences, enfin, tu vois, je fais souvent réfléchir sur la parenté qu'il y a entre écologie et économie. Ces deux mots qui ont la même racine, oikos en grec, et oikos, ça veut dire la maison. Eh bien, l'écologie, c'est la science qui étudie les règles de fonctionnement de la maison du vivant, et l'économie, c'est celle qui en détermine la valeur, d'une certaine manière. Ces deux sœurs sont devenues ennemies aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ceux qui constatent le déclin du vivant toquent à la porte ou donnent des coups de coude à ceux qui sont en train de flinguer la planète pour gagner des thunes et remplir leur portefeuille. C'est évidemment une caricature, ce que je dis. Et voilà, donc ces deux sœurs-là, ce sont deux sœurs, tu vois, ce sont deux mots qui sont des mots sœurs. Puis après, il y a plein de choses qui racontent tellement de choses. Tu vois, par exemple, les insectes et les invertébrés. Ça, j'aime bien raconter ça, pour dire que c'est des mots qui sont définis en négatif. Alors, insecte, c'est ce qu'on peut couper. Tu sais que les insectes sont composés de trois parties, tête, thorax, abdomen, avec six pattes, avec des antennes. Bref, donc ça, c'est les insectes. Donc, sectionné, c'est la même racine. Insecte, c'est ce qu'on peut couper en trois. Bon, invertébré, c'est quand même fou d'avoir fait cette espèce de groupe animal fourre-tout avec tout ce qui n'a pas de vertèbre, tu vois, c'est définir quelque chose en négatif. Moi, ce que j'écris dans le bouquin, et j'espère que ça fera sourire celles et ceux qui vont lire ça, c'est que comment vont nous définir les insectes ou les éventuels céphalopodes qui auront pris le relais de l'espèce humaine une fois qu'on aura réussi à flinguer toute la planète, qui viendront après nous? Est-ce qu'ils nous auront définis comme inanténés? On n'a pas eu les antennes pour deviner ce qu'on allait faire. Comme inharmonieux, parce qu'on n'a pas réussi à vivre en harmonie avec ceux que j'appelle très sérieusement nos frères et sœurs du vivant, ou comme des insupportables, enfin bref, beaucoup de choses. Donc tu vois, grâce à cette blague, on retombe dans cette espèce de travers de l'humain qui ne voit pas trop plus loin que le bout de son nez et qui voit tout à sa propre aune, à sa propre mesure, en fonction de ses propres besoins, de ses propres caprices. Et ouais, finalement, on retombe sur ce qu'on disait au début de ton intro.
Trop bien. Je t'ai donné du coup mon idée pour ces actions citoyennes. Est-ce que toi, tu aurais une petite idée supplémentaire d'action citoyenne très rapidement qu'on pourrait mettre en place dans notre vie, qui pourrait faire une petite différence vis-à-vis de ce vivant?
Il y a beaucoup de jardins en France. J'ai pas encore réussi à trouver la superficie des jardins en France, mais je crois qu'il y a 60% des Français qui ont la chance d'avoir un jardin. Moi, j'ai pas la chance d'avoir un jardin. Mais mes parents en ont un, tu vois. Et nul n'est prophète en son pays parce que mes parents, ils tondent tout leur jardin. Et ça, c'est dommage. Parce que, au maximum, il faudrait tondre juste les points de passage et laisser tout le reste enherbé, réensauvager ces jardins. Il y aurait beaucoup plus d'insectes, donc il y aurait beaucoup plus d'oiseaux. Il faudrait commencer à faire gaffe à son chat, tu vois, les gens qui prétendent aimer le vivant et qui ont un ou plusieurs chats. Et en faisant en sorte que le chat puisse être totalement libre de sortir quand il veut, notamment au crépuscule et au lever du soleil, les chats déglinguent, désinguent tout le vivant qui est très actif au début et à la fin de la journée, tu vois.
Que leur mettre des petites clochettes, c'est alors apparemment...
Alors, il y en a qui disent que du coup, ils se prennent dans les branches et qu'ils peuvent s'étrangler. En fait, les chats, c'est un des chapitres, une des idées du livre, les chats sont une des causes de disparition de ce que j'appelle la petite faune du quotidien. Ils tuent des orvets, des hérissons, des chauves-souris qui sont en net déclin en France. Ils tuent beaucoup d'oiseaux. Tu vois, ils tuent, je crois que c'est pas loin de 30% d'oiseaux, des mésanges, des rouges-gorges. Alors tu vois, c'est fou. Quand t'as des gens qui aiment le vivant, qui ont plein de chats, et qui foutent des boules de graisse ou des graines pour attirer les oiseaux, tu vois, si t'attires les oiseaux pour que tes chats les mangent, on a un problème. Donc bref, laisser des parties enherbées, évidemment éviter les pesticides. ils se rendront compte qu'au bout d'un certain temps, bah, les jardins, ils retrouvent une harmonie, ils se régulent eux-mêmes, tout simplement.
Ouais, trop bien. Ça rejoint un peu l'interview que j'avais faite avec Hugues Moret. Ouais. Il disait qu'en redonnant un quart de nos jardins à la nature, on double les surfaces naturelles protégées en France. Et tu disais tout à l'heure que je savais qu'un insecte était fait de trois parties. Je le sais depuis quelques jours grâce à la série que vous avez créée justement en collaboration avec Hugues Moret.
Sur les auxiliaires de culture.
Sur les auxiliaires de culture. Merci beaucoup Marc, c'est ma question de la fin, le podcast s'appelle Les Vivantologues, je pose toujours la même question à la fin, à savoir qu'est-ce qui nous rend heureux sur cette planète, mais je pense que j'ai une petite idée pour toi. Du coup j'avais envie de détourner un peu cette question et te demander, peux-tu nous raconter un instant de ta vie, peut-être une rencontre avec le vivant qui t'a particulièrement rendu vivant, peut-être via tes plongées, tes expéditions en montagne, as-tu un moment comme ça ?
Moi, j'aime bien une citation de Gandhi qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Aujourd'hui, peut-être que beaucoup auront du mal à le croire, mon kiff, ma raison de vivre, je pense que j'ai pas peur de le dire, hein, et j'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour créer tous ces podcasts bénévolement. Et là, je souffle enfin parce qu'au bout de 4 ans de quasiment de bénévolat, j'ai eu 2-3 aides par-ci par-là, mais rien qui casse 3 pattes un canard. Là, il y a la fondation Iris qui nous a accordé une énorme subvention qui va me permettre enfin de gagner un tout petit peu d'argent en faisant cette sensibilisation. Donc je remercie Françoise Brinkmann de la fondation Iris. Je lui fais un énorme bisou, elle nous donne des ailes. Bref, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et même si je fais les choses et si je les écris très imparfaitement, c'est le moteur de ma vie aujourd'hui, de partager et de transmettre. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a toute une équipe à Baleine sous Gravillon de jeunes qui vont prendre la relève. Et ça, c'est la joie de ma vie. Il n'y a rien de plus important pour moi dans ma vie en ce moment. Et pour finir sur ce que tu voulais, c'est-à-dire une de mes plus belles rencontres, je pense que ma plus belle rencontre, elle était aussi très fugace. Elle a duré une dizaine de secondes. Un jour, j'ai eu la chance d'apercevoir, je l'ai cherché depuis très longtemps, une maman baleine qui faisait une sieste à la surface de l'eau au large des côtes pacifiques du Costa Rica, où j'ai habité pendant 6 mois, où j'étais prof de plongée. Et tu vois, il y a plein de choses. Alors, au tout début, ça a commencé. En gros, il y avait une mini marée noire, il y avait une flaque d'huile autour de l'évent de cette baleine, parce que leur évent est tellement lubrifié, leur souffle est tellement puissant que s'il n'était pas lubrifié, elle saignerait tellement, c'est fort. Hein. Donc, bref, là, elle faisait la sieste. Donc, tu vois, au repos, en gros, il y avait une flaque d'huile sur l'eau qui provenait de ce que je viens de te dire. Donc, on a coupé le moteur du bateau longtemps avant, en avançant sur son air, qui est le terme consacré pour dire avec son élan. Le bateau est venu se poser à 10 mètres de cette baleine. Je me suis mis à l'eau sans trop clapotis, sans trop faire l'idiot, juste en palme masque. C'était de retour d'une plongée qu'on est tombé sur cette baleine à bosse. Et voilà, et j'ai nagé jusqu'à cette baleine et je me suis retrouvé à 3 mètres d'elle. Et là, j'ai vu 3 choses. La première, c'est son œil qui faisait la taille d'un ballon de volet qui me regardait. Je te laisse imaginer ce face-à-face avec un
regard.
Les yeux, pour le coup, les yeux dans l'œil d'une baleine, hein, parce qu'ils ont un œil de chaque côté de la tête. Donc elle a vu les deux miens, mais moi, j'ai vu qu'un des siens. La deuxième chose que j'ai vue, c'est sa fameuse nageoire pectorale, sa palette natatoire, on devrait dire, qui faisait 3 mètres et demi, enfin 2 fois ma taille. Une impression de petitesse et aussi d'harmonie. Tu vois, j'étais à 3 mètres, mais voilà, enfin, tous ceux qui ont vu des baleines, je pense, peuvent ressentir ce que je décris maintenant. Et la surprise du chef, pour le coup, derrière cette nageoire, il y avait un baleineau de 3-4 mètres, pareil, peut-être un peu plus, peut-être 4-5 mètres, qui avait l'air d'avoir, enfin, tu sais, forcément, mais je pense que c'est encore de l'anthropomorphisme, mais qui avait l'air d'être un peu intimidé par ma présence, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Puis voilà, je les ai dérangés et je le regrette. Elles ont sondé, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles sont reparties vers le fond. Elles ont disparu très tranquillement. Et un peu comme Paul Watson, lui aussi, il a vu un œil de baleine, mais dans des conditions beaucoup plus tragiques. C'est une baleine qui venait de se faire harponner, je crois que c'était un cachalot même. Enfin bref, et Paul Watson raconte ça, et c'est son souvenir à lui. Ben, le mien, il est un peu plus heureux, ce qui finit pas aussi mal.
Paul Watson, c'est...
C'est le fondateur de Sea Shepherd, oui, qui est passé dans Baleine sous Gravillon.
Trop bien. Dans une de tes interviews, tu dis que les Français sont plutôt généreux, mais qu'ils donnent toujours aux mêmes associations. Une des actions citoyennes assez accessibles à tout le monde, ce serait peut-être d'aider via des dons l'association Baleine sous Gravillon, par exemple, ou des associations peut-être plus locales qui œuvrent sur le terrain. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce que tu nous conseilles ?
Oui, alors là, tu me tends une perche. Enfin, tous ceux qui défendent le vivant méritent d'être aidés. Et effectivement, que ce soit la LPO, L214, Sea Shepherd, c'est... ces grosses assos qui, bien sûr, que j'admire et que j'ai interviewé leurs représentants, je les connais très bien, je les adore, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas faux de dire qu'ils bénéficient d'un pourcentage trop énorme de la générosité de celles et ceux qui nous écoutent. Et il y a plein de petites assos locales, des centres de soins à la faune sauvage qui crèvent dans leur misère. C'est aussi notre cas. Baleine sous Gravillon, bah oui, ça fait 4 ans qu'on existe. Là, on vient d'avoir enfin une grosse dotation et j'ai déjà remercié la Fondation Iris et Françoise Brinkmann qui nous donnent des ailes. Mais effectivement, pour le coup... je suis très triste. On reçoit très peu d'argent, finalement. On a un Hello Asso, on a un compte aussi sur Tipeee. Les gens, s'ils n'ont pas de sous comme nous, bah, ils pourraient installer un moteur de recherche qui s'appelle Lilo. Et chaque recherche génère des gouttes, et ces gouttes, à la fin, ça fait des petits sous pour nous. Mais en fait, on est aidé de manière vraiment dérisoire. On récolte, tu vois, après 4 ans d'existence, c'est plus de 100 000 écoutes par mois, 2 millions d'écoutes en tout. Enfin, on n'arrête pas de me féliciter, de me dire que c'est utile et que c'est vachement bien et tout. Et pourtant, il faut bien entendre ce que je dis. Hein. Je me plains pas, je fais avec ce que j'ai. Mais c'est vrai que, enfin, tu vois, même les avis, on a, je crois, j'ai plus les chiffres en tête, mais malgré les millions là que je t'ai dit d'écoute et tout ça, on a très très peu de gens qui prennent moins de 2 minutes pour nous mettre des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, alors que ça nous fait remonter, tu sais, dans les référencements. Et donc, on est plus spontanément proposé aux gens qui pourraient écouter des émissions sur le vivant. Donc, ça serait utile, tu vois. Et même ça, enfin, on a très très peu, vraiment, on a très très peu d'étoiles, très très peu d'avis, et je t'avoue, je comprends pas.
Ouais. Moi, je pense qu'on n'y pense pas, et pour avoir passé de l'autre côté, maintenant j'ai compte YouTube, je me rends compte à quel point c'est important, et donc maintenant, à chaque fois que j'ai l'occasion, je mets un pouce, je mets un commentaire, vraiment systématiquement, dès que j'aime quelque chose ou que j'ai un commentaire. Mais avant, c'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas, et c'est important, du coup, c'est chouette de le rappeler aujourd'hui. Donc, allez-y dès que vous aimez ou dès que ça vous a évoqué quelque chose, n'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires, c'est hyper précieux pour nous.
On vit dans une société où les gens sont habitués au gratuit. Et associe le fait que ce soit gratuit au fait que ça n'a pas de coût. Et effectivement, bah, je comprends, hein, ils préfèrent donner à des gros trucs L214 ou super, et c'est très bien. Et enfin, si j'ai peur des L214, ils sont pas partout. Ils sont pas là pour prendre soin des hérissons, des oiseaux, de tous ces animaux qui ont des problèmes de colocation avec nous. Et qui se retrouvent dans les centres de soins fonds de sauvage, il y en a beaucoup en France, et je sais qu'ils crèvent dans la misère. Ils n'ont aucun budget, qui n'ont pas la surface médiatique de ces grosses assos, qui, dans certains cas, ne savent plus quoi faire des millions qu'elles engrangent. Tu vois, je pense à L214, moi je leur en veux un peu, parce que je leur ai proposé qu'on fasse des choses ensemble. Je les ai interviewés au tout début que j'ai fondé Baleine sous Gravillon, j'ose le dire, et quand je leur ai demandé un tout petit renvoi d'ascenseur, ne serait-ce que de communiquer sur ce que j'avais fait, ils ont même pas fait ça, ils ont pas de temps à perdre, tu vois. Et c'est vrai que je leur en veux un peu. Ils pourraient être un tout petit peu plus coopératifs. On a parlé de ça dans l'épisode, tu sais, avec la coopération le versus la compétition. C'est le petit reproche que je fais, tu vois, à toutes les assos en France, elles sont toutes comme ça, hein. Et je suis ami, encore une fois, il faut faire la part des choses. Ils sont vraiment le nez dans le guidon de leur propre business, combat, ce que tu veux. Et c'est vrai qu'ils sont pas très partageurs, tu vois. Que ce soit sur la com, que ce soit sur d'autres formes de coopération, ils sont pas très là-dedans. Et ça, c'est vraiment un virus qui est très français pour le coup.
Alors que l'union fait la force.
Tu sais, c'est une autre citation, tu me demandais des citations tout à l'heure. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
Ouais. Le message est passé et je pense qu'en effet, man, il est urgent qu'on se serre les coudes entre tout cet écosystème qui défend le vivant. Donc, unissons nos forces. On le rappelle, ton livre est maintenant disponible en librairie depuis le 19 avril. Pour en finir avec les idées fausses sur le monde vivant, avec une superbe préface de Marc-André Sellos, spécialiste des sols.
Coucou Marc-André, et merci.
Qu'on a eu la chance de rencontrer sur le territoire du Beaujolais. Marc Mortelmans, comment on retrouve tout le reste de ton travail ?
Écoute, c'est très simple. Alors, tu viens de dire que le bouquin, il est en librairie. En effet, sur France Culture, on peut m'écouter sur l'appli. Les 5 podcasts que je fais, les 4 de Baleine sous Gravillon, plus Mécanique du Vivant sur France Culture, tout est disponible sur toutes les applis d'écoute que sont Apple Podcasts et Spotify. Rien que ces deux-là, c'est 75% de mes écoutes. Mais il y a aussi Deezer qui est un peu plus mal foutu. Donc, je recommande plutôt aux gens de nous écouter. Parce que c'est la grande nouveauté de la saison prochaine, en fait, sur Baleine sous Gravillon. C'est que je ne vais plus être seul. Il y a d'autres voix qui vont apparaître. Donc dispo sur toutes les applis d'écoute de France et de Navarre pour ce qui est des 5 podcasts. Je rappelle qu'on a un site, baleinesousgravillon.com, sur lequel il y a les plus beaux articles du monde qui arrivent en complément de tous les podcasts. Donc j'encourage tous les amoureux du vivant à aller jeter un œil sur ce qu'on fait sur notre site. Et puis ceux qui ont envie de donner un coup de main, ou j'ai déjà expliqué différentes manières de le faire, mais on est aussi preneur de stagiaires, de bénévoles, d'adhérents à l'asso Baleine sous Gravillon. Voilà.
Merci beaucoup Marc Mortelmans.
Merci à toi et rentre bien dans le Beaujolais où j'espère avoir la chance de venir te voir un jour.
Avec plaisir. L'épisode se termine, voici les idées d'action citoyenne que je retiens de cet épisode. Nourrir notre curiosité, signer des pétitions pour faire entendre nos voix, faire attention au vocabulaire que nous utilisons au quotidien et s'amuser à le changer pour changer notre perception du monde. La parole est créatrice, dit-on. Réensauvager les zones sans utilité de nos jardins, faire attention à la prédation de nos chats, soutenir les associations locales et les créateurs de contenu avec des mots d'amour et de l'argent quand c'est possible. Vous l'avez compris, c'est si important pour nous, merci beaucoup. Se serrer les coudes, remettre à la mode la coopération et l'entraide partout et autant que possible, en faire une véritable force. Pour finir, je repars avec ces mots. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je connaissais les mots de Simone Veil qui lui ressemblent beaucoup. Il restera de toi ce que tu as donné. Bien souvent, nous nous demandons ce que l'année 2024 présentement va nous apporter. Et si nous nous demandions aujourd'hui, que vais-je apporter de moi à 2024? Et vous, avec quoi repartez-vous? Je vous souhaite une belle journée à vous tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles doses d'inspiration.